Eh oui, merci beaucoup. On va à présent changer totalement de thématique, quoique les produits dont vous allez nous parler, enfin et dont on va se passer hein, tout le mois de janvier, eh bien sont aussi souvent en promotion. On va parler du Dry January, vous savez, le mois sans alcool pour se questionner. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Voilà, c'est le moment d'accueillir notre invité santé du jour. C'est vous, professeur Amine Benyamina. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes addictologue, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous êtes également président de la Fédération française d'addictologie et d'Addictaid. Alors, professeur, depuis 6 jours, le challenge a démarré. C'est le fameux Dry January. En français, janvier sec. En fait, c'est un peu comme mois sans tabac en novembre. Sauf que l'idée, là, c'est de plus boire d'alcool, de faire une pause. Je dis plus boire d'alcool parce que c'est pas l'idée, c'est pas d'en boire forcément plus jamais de sa vie. C'est quoi l'objectif alors de Dry January?
Alors le défi de janvier, Dry January, janvier sec. Alors à la différence du mois sans tabac, qui est le mois de novembre, que vous connaissez bien Mélanie, c'est oui. qu'il n'est pas soutenu par les pouvoirs
publics. Et Julia, vous savez, elle a arrêté de fumer depuis deux mois. Hein,
oui, ben, je me suis servi du mois sans tabac. Bon, donc maintenant je vais arrêter de boire, c'est super.
Donc il n'est pas soutenu par les autorités publiques, on reviendra.
Oui.
Et un petit mot d'historique, je vais être rapide. 2013, les Britanniques ont décidé d'un commun accord de faire le Dry January, c'est-à-dire après les excès du mois de décembre, on se dit bon, on va lever le pied sur l'alcool. Parce qu'il y a un gros problème d'alcool aussi de l'autre côté. Ils ont avancé, eux, pas nous, comme les Russes. Et donc, du coup, on a clairement mis en place quelque chose qui était d'abord et avant tout ludique. L'idée, ce n'est pas de faire des Britanniques en 2013 et encore moins les Français maintenant, des buveurs d'eau pendant le mois de janvier et les pousser vers l'abstinence tout le reste de l'année. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, tiens, je vais arrêter de consommer parce que j'ai fait des excès, comme j'ai fait des excès surtout... et surtout sur l'alcool, le mois de janvier, et je vais voir comment je vais réagir, est-ce que je vais en tirer. Est-ce qu'on en a tiré, puisque la question a été posée, c'est d'abord, on va alléger le porte-monnaie, on en parlait dans le sujet d'avant, on va alléger la balance, on perd du poids, on va mieux dormir, on va améliorer la tension artérielle, on va améliorer la couleur de la peau, on va améliorer un certain nombre de choses qui n'étaient pas prévues au départ, et donc du coup, c'est plutôt pas trop mal.
Ah, c'est plutôt motivant. Alors ça s'adresse à qui? Aux jeunes plutôt, ou c'est pour tout le monde, ou franchement pour ceux qui ont vraiment un problème avec la boisson?
Pour tout le monde. Pour tout le monde. Le défi de janvier, c'est une opération générale, conviviale, qui intéresse tous les Français, et j'ai envie de dire tous les Européens, parce que les Belges, 600 000, et chacun va faire son défi de janvier en fonction de ce qu'il est.
Ça s'appelle la tournée minérale, non?
Absolument, c'est en février.
C'est ça, c'est pas le même mois.
Absolument. Et quand, évidemment, si vous êtes un très gros consommateur, je vous déconseille de vous arrêter comme ça, il y a des signes de sevrage, mais... ça vous interpelle et vous allez vous dire, tiens, je sors du déni, je crois que j'ai un vrai problème d'alcool.
Et si je diminuais déjà, par exemple.
Et si je diminuais déjà. Voilà. Et puis c'est plus simple lorsque tout le monde le fait.
Bien sûr.
Parce que vous n'êtes pas stigmatisé si vous dites, bon écoutez, moi j'ai un problème d'alcool, j'arrête. Et ceux qui consomment de temps en temps, ben, ils vont arrêter et certains vont se rendre compte, c'est le cas de beaucoup, dans mon entourage en tout cas.
Finalement,
ce petit verre que je bois tous les soirs, c'est pas beaucoup.
Est-ce qu'il est bien
laissé? Ouais. J'ai du mal à m'en passer.
Finalement, tranquillement. Alors rappelez-nous, professeur Benyamina, quel est l'impact de l'alcool sur notre santé de façon générale? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop banaliser tout ça. Tout le monde souhaite arrêter de fumer, on sait pourquoi. Sur l'alcool, c'est pas encore hyper clair. On a l'impression que l'alcool, c'est en France, c'est un cas particulier.
Ouais, alors je vais un peu casser le moral. C'est l'alcool, on n'est pas obligé d'en boire. Donc le gros problème dans les pays européens, et en France en particulier, parce qu'on est des champions d'alcool, il est partout. Bon, c'est pas plus mal, mais bon, ça fait du mal. Voilà. Donc, l'alcool, c'est 42 000 morts directement liées à l'alcool tous les ans, avec une soixantaine de maladies, dont les deux grosses maladies, c'est la sphère cardiovasculaire et les cancers, directement liées à l'alcool. C'est quand même la première cause évitable de mort. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de consommer de l'alcool, on est obligé de manger, et parfois on mange mal, et on peut avoir un cancer parce qu'on mange mal.
Mais il suffit d'arrêter.
Ce qu'on appelle des causes évitables. C'est un cas de violence sur trois, notamment les violences aux femmes, les violences conjugales, dont on parle là maintenant. C'est un enfant qui naît mal formé sur 8.
Oui.
Donc on a beaucoup de
c'est de
un accident
de la voie
publique sur 3. C'est quand même, le mois de janvier, il est soft, il est cool, il est tranquille, mais ça nous permet de voir un peu où on en est.
Est-ce que le risque est le même, peu importe l'alcool? C'est pas la même chose, j'imagine, entre une petite bière et un verre de whisky aussi?
Alors c'est pareil.
C'est pareil.
C'est la même chose, et c'est très bien de poser cette question, Julia. Ce qui compte, ce n'est pas la robe, mais c'est le contenu.
Ouais.
Ou c'est sous la robe, en gros. Mmh. C'est-à-dire la teneur en alcool. Ce qui est important, c'est la teneur en alcool. Moi, j'ai des patients qui ont été transplantés du foie parce qu'ils ont eu des cirrhoses et ensuite des problèmes, qui étaient des consommateurs de cidre, mais ils consommaient des litres de cidre.
De cidre, ah oui.
Oui, du cidre, c'était de l'alcool. C'est le titrage en alcool.
C'est qu'on a pensé que le cidre, le bolet de cidre avec les crêpes,
ben,
c'est
rien. J'ai appris que le cidre était responsable des cirrhoses du foie quand j'ai travaillé avec un centre de transplantation du foie chez des patients qui venaient. Donc moi j'ai des patients, et ça c'est vraiment c'est défensif, il faut le dire, hein, à vos auditeurs, je le dis. Et ils disent, écoutez docteur, moi je ne prends pas de whisky, je ne prends pas des alcools forts, je prends du champagne.
Non, le champagne, plus, ça marche pas,
c'est de l'alcool.
On dirait moi.
Voilà. Est-ce qu'on sait si... Je ne prends que du vin blanc, c'est de l'alcool.
Professeur Benhamina, est-ce qu'on sait si depuis 2 ans, notamment à cause des confinements, de la crise sanitaire, est-ce que les comportements des Français vis-à-vis de l'alcool ont changé?
Oui, ils ont changé. Alors moi j'ai des... Ils ont changé, on a fait avec Addiction France, l'association, donc la grande association française, on a fait un sondage qui montrait que pendant le premier confinement, les consommateurs réguliers ont majoré leur consommation. Toutes les consommations, alcool, tabac, cannabis, drogue, benzodiazépine. Ça peut s'expliquer par... Bon, c'est pas le but de le rapporter, mais le moral n'est pas très bon.
On s'ennuie à la maison.
On a fait des apéros Zoom, ça explique.
Ça détend.
Voilà. Deuxième élément, pendant cette période, on a surconsommer de l'alcool, parce qu'on a laissé, et tant mieux, l'achat de l'alcool libre, rappelez-vous. C'était un autre demande, parce qu'on s'est dit, si on ferme tout, on va avoir un
embouteillement,
des dépressions et des sevrages sauvages dans les maisons, puisqu'on était confinés. Donc il y a un vrai lien entre la société dans laquelle on vit, les accidents de la vie en commun, notamment par exemple une pandémie, et la consommation des drogues, l'alcool en premier chef, et les problématiques psychiatriques et psychologiques.
Bien. Professeur Benhamina, on va se retrouver dans un très court instant. On n'en a pas fini avec vous. On va vous demander justement quelques conseils pour le réussir, ce Dry January. Car même quand on n'a pas de conduite problématique avec l'alcool, il y a souvent les verres qu'on boit pour le plaisir et puis ceux qu'on n'arrive juste pas à refuser socialement. Donc on a besoin de vous pour comprendre tout ça et arriver à dépister l'addiction quand elle pointe son nez. On y revient dans quelques minutes. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.
12h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour, en plein éclairage sur cette opération, le Dry January, un mois de janvier sec sans alcool. On fait le point avec vous, professeur Badmine Benyamina. Je rappelle que vous êtes addictologue, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et président de la Fédération française d'addictologie et d'Addictaid. Bon, si on veut se mettre au mois sans alcool, comment on s'y prend? Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare? On le décide comme ça du jour au lendemain? D'ailleurs, ceux qui nous écoutent qui n'ont peut-être pas démarré, on est le 6, on a le droit de démarrer le 6, c'est bon?
Oui, évidemment, c'est le principe du défi. Le principe du défi, c'est un objectif, on essaie de le tenir.
On peut faire 6 au 6, quoi.
Évidemment, si on ne le tient pas, on ne va pas se faire frapper. Voilà, on ne va pas se faire taper sur la main. Non, il faut le préparer dans sa tête, parce que comme on a fait des excès quasi prescrit depuis le 1er, voire le 1er décembre. Et donc on se dit, bon, à partir du 1er, vraiment, on ne se laisse pas surprendre par la dynamique dans laquelle on veut se mettre. Mmh. On se prépare vraiment. Alors, la meilleure façon de se préparer, c'est de vider les bouteilles à la maison.
Il n'y a plus rien.
Il ne faut pas laisser quand même
les vider
31,
dans l'évier.
Je veux dire, dans l'évier.
Oui, merci.
Voilà, donc, ça se vide la veille ailleurs, mais ensuite ce qui reste, on met les données.
Vous avez commencé le 2 janvier. Hein, vous.
Non, c'est moi.
Non, c'est moi.
Amine,
c'est le premier, évidemment.
Vous
avez commencé le 1er.
Complètement, oui.
Et vous, Julia, vous n'avez pas commencé encore?
Moi, je ne le fais pas. Mais moi, je bois peu avec mes horaires.
Mais il faut quand même, c'est bien.
Parce que lorsque on boit peu, on a l'impression qu'on est capable de se passer du peu. Et donc, défiez-vous.
Oui, c'est juste pour faire le défi. Vous avez tout à fait raison, professeur, parce que je sais que, par exemple, le jeudi soir, vers 18h, je m'autorise pour la première fois depuis très longtemps une petite goutte d'alcool et je l'attends comme une toxico, quoi. Donc, c'est qu'il y a un vrai petit problème.
Non, mais je pense qu'il y a un plaisir qui est associé à ça. Je veux quand même pas. Il y a un plaisir. C'est très important.
On a le droit de garder le plaisir, quand même.
Évidemment, il faut maintenir le plaisir. Attention, on passe pour des ayatollahs de l'abstinence. C'est faux. Vous savez que les addictologues en France ne sont pas ça. C'est le lobby qui le dit. C'est pas nous. Donc, le plus important, c'est d'avoir un équilibre sur sa manière de gérer sa consommation. Le plus important, c'est de ne pas se laisser échapper, de ne pas se laisser perdre sa liberté.
Ça, alors c'est un défi, important. Il faut le prendre comme un jeu, jeu qui donne l'occasion de réfléchir. Mais par contre, je pense que quelque chose qui peut être utile, c'est quand même de prévenir ses proches et son entourage.
Oui,
parce que là, on risque d'avoir quelques bananes sous le pied.
C'est pour ça que vous êtes très important, la MIA et Europe 1.
Mais c'est vrai qu'il faut dire qu'en France, on n'est pas vraiment aidé. On a beaucoup de sollicitations, des pots de départ, enfin là, un petit peu moins en ce moment à cause du Covid, mais quand même, des fêtes en famille. C'est presque culturel, l'alcool. Est-ce que le plus simple, c'est pas de se dire, bon, en janvier, zéro vie sociale, je reste chez moi et je bois des
il
sodas.
Il est triste,
quoi.
Le drame.
Mais
non,
il ne faut pas le faire comme ça, ouais. Parce que ce qu'on est en train de dire et de répéter, c'est qu'il est possible d'avoir une relation sociale conviviale, sympathique, et en retirant l'alcool, gentiment. Parce que si on associe la non-consommation d'alcool à de la sinistrose, on n'y arrive plus. C'est pas possible. C'est comme ça que la prévention ne marche pas. Et c'est comme ça qu'on est régulièrement disqualifié en tant que praticien. Ça ne marche pas. Il y a moyen de faire. Il y a une période, hein, il y a une période de chevauchement, une période de crise. Ensuite, on peut faire. On peut faire.
Bon, allez, moi j'ai besoin de vos conseils pratiques. Hein, je suis sûre que vous avez des astuces très simples à nous conseiller. Si durant ce mois de janvier, on se retrouve quand même dans des situations où il va falloir expliquer aux gens, non, là je bois pas, je vais rester à l'eau, je vais prendre un jus de fruits. Franchement, parfois en France, on peut nous prendre pour, on se dit, là, elle a un problème avec l'alcool. Ou alors, elle a un problème avec l'alcool, elle m'en avait pas parlé. Ou elle est enceinte. Comment on peut expliquer ça?
Alors, pendant le mois de janvier, ce qui est sympa et facile, c'est que tout le monde le fait et qu'on en parle. Donc vous dites, je fais le dry January, je fais le défi. Ils ne vont pas trop insister. En revanche, si vous le faites en février, mars, avril, vous allez vous rendre compte de la pression sociale en France.
Moi, on me demande tout le mois de janvier si je suis enceinte, effectivement, quand je refuse les verres.
De la part de ceux
peut-être
qui sont capables.
Juste parce que je suis grosse.
Absolument. Il y a une revanche de la part de ceux qui sont capables de le faire, ou de se prémunir finalement contre les excès pendant le mois de janvier, et qui s'inverse sur le reste des mois. Donc profitons.
Mais il faut se justifier avec l'alcool. C'est quand même pénible, parce que quelqu'un qui ne fume pas, il n'a pas à s'expliquer. Il n'est pas en train de dire.
On vous félicite même.
Je suis désolée, j'allume pas une cigarette. Ouais. Mais par contre, quand vous vous apprêtez à ne pas boire, vous êtes obligé de prévenir. C'est fou ça, non?
C'est fou. C'est tout le travail qui n'est pas fait par les autorités, qui n'est pas fait par les politiques en France. C'est ce qu'on appelle la dénormalisation. Ce n'est pas normal de se retrouver à consommer de manière systématique. Vous entrez n'importe où, on vous tend directement un verre, et si vous ne buvez pas, vous êtes suspect de quoi que ce soit. Donc ça, c'est pas normal. On peut savoir dire non. C'est un peu comme ont vécu il y a quelques décennies les végétariens ou bien les véganes.
Ils pas obligé de manger de la viande.
Des extraterrestres, c'est plus le cas.
Bien sûr.
Donc il faut faire ce travail.
Par rapport au mois sans tabac où c'est zéro tabac, est-ce que là, on va vous demander l'autorisation? Est-ce qu'éventuellement on peut se dire, j'arrête pas complètement pendant le mois de janvier, mais déjà je diminue? Est-ce que c'est déjà un bon moyen de réfléchir ça?
Le plus important, c'est d'être dans la dynamique.
Et dans la réflexion.
Faites-le. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait la promotion du dry January à la tête de grandes associations qui ne l'ont pas fait entièrement il y a quelques années.
Ouais, d'accord. Donc déjà, si on ne boit qu'une fois par semaine un verre, on peut tirer.
Je ne vais pas vous le prescrire, Julien.
D'accord, je sais, j'ai compris. On n'y arrivera pas, Mélanie. Mais quel est l'intérêt si on s'arrête juste un mois et qu'on repart de plus belle après? Ça va pas nous faire,
bonne question.
J'ai des très bonnes questions.
Voilà, des bonnes questions, cette Julien.
Alors, quand on s'arrête pendant un mois, on modifie son schéma de pensée à son insu, dans le bon sens. C'est-à-dire l'expérimentation du bien-être, d'un meilleur sommeil, d'une perte de poids, et quelque chose qui va encore être utilisé tranquillement malgré vous les autres mois. Et ça a été montré, ça a été publié par les collègues britanniques en 10 ans d'avance sur nous. Et on se rend compte qu'on est un peu plus libre pour dire non. On est moins systématique sur la consommation d'alcool les autres mois.
Mais la peau, comment on explique l'effet de l'alcool sur la peau ou sur le sommeil?
C'est le vieillissement des cellules. Vous savez que l'alcool, c'est un produit toxique. Vous mettez n'importe quoi, vous le plongez dans l'alcool, ça flétrit, ça mûrit, c'est pareil. C'est exactement ça.
Donc imaginez votre peau.
Tout à fait physique.
D'accord. Et pour ceux qui arrivent, qui vont pas arriver à tenir ce challenge, à faire cette pause d'un mois, le bilan c'est quoi? Qu'ils ont donc une consommation peut-être problématique. Est-ce que ça c'est sûr à 100%? Est-ce qu'il faut consulter si on n'arrive pas à tenir?
Alors il y a deux types de personnes qui probablement à mon sens ont du mal. Ceux qui ont chevillé au corps le rituel du verre, sans avoir des problèmes, et ils sont coincés dans le rituel, dans la pression.
Si vous n'arrivez pas à enlever votre verre du jeudi soir à 18h, Julia, il faut vous poser des questions.
Et puis il y a ceux qui boivent beaucoup, et qui physiquement sont tout à fait dépendants, et même psychologiquement. Ceux-là doivent évidemment consulter. Les deuxièmes, je pense qu'après ce mois...
C'est quoi boire beaucoup?
Boire beaucoup, c'est lorsqu'on n'est plus capable de s'arrêter de boire, lorsqu'on commence à boire. Ce n'est pas boire tous les jours. C'est lorsque on consomme, il y a une perte de contrôle.
J'allais vous dire boire tous les jours, mais il y a des personnes
forcément.
Qui, par exemple, ne boivent pas la semaine prennent des bitures le week-end.
Et
ça, c'est quoi?
Lorsqu'on perd le contrôle et lorsqu'on a des bitures avec des dommages qui s'installent, en aigu, on doit se poser la question sur son rapport à l'alcool.
Alors, quel est l'impact d'un arrêt de consommation d'alcool durant un mois? Qu'est-ce qu'on va trouver dans notre corps au bout d'un mois? Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un mois, j'ai perdu quoi?
On
peut perdre
tout,
2 kilos,
foie,
vraiment
du cœur, on trouvera tout.
D'accord. Bon. Non, mais sur le sommeil, déjà, c'est
le
sûr.
Le sommeil on va mieux s'améliore. Dormir. C'est ouais. évident, ça a été, c'est un critère qui est rapporté tout le temps. Une perte de poids, c'est évident. Vous savez qu'un verre d'alcool est plus gras que n'importe quelle sucrerie. Hein. Quel gâteau, c'est vraiment
très gras.
Plus
grossir, ouais.
Chez les hommes aussi, vous savez que la bedaine, en vérité, c'est pas que la bière. C'est une topographie d'installation du gras dans le ventre. Mm-hmm. Alors, je dis ça aux hommes qui souhaitent perdre et qui
l'alcool,
n'y arrivent pas.
Donc, l'alcool, c'est effectivement très sucré.
Gras, c'est très ouais. sucré.
Bon. Et pour y arriver, est-ce que vous avez des conseils pratiques? Parce qu'on sait que l'un des leviers d'efficacité du mois sans tabac, notamment, c'est l'aspect collectif de la chose.
Évidemment.
De se mettre en groupe, d'être sur les réseaux sociaux, ça existe ça pour ça le existe. Dry January.
Ça existe, vous allez sur le site, vous voilà. avez dit tout à l'heure, Mélanie, addicted.fr, vous êtes sur Try Dry, c'est une application dans laquelle vous vous inscrivez, il y a des forums, il y a des conseils. Et on a,
c'est assez ludique en fait, hein, moi je l'avais téléchargé l'année dernière.
On a sur, ouais. Sur Twitter et sur
on voit les économies aussi.
Complètement. On a Allez Colline, vous savez que ce sont avec des illustrationnistes.
Illustratrices.
Illustratrices, voilà, j'allais dire illusionnistes. c'est un éphéméride, donc c'est un monsieur de calendrier de l'Avent, hein, et qui tous les jours nous donne des conseils et mettons en communauté un certain nombre, tout le monde finalement. Donc cette année, par rapport aux autres années, on a même les villes qui se sont associées.
Ah.
À la ville de Paris, par exemple, Grenoble.
Mais pas les pouvoirs publics. Alors on a quelques villes, mais comment on explique ça? Pourquoi les pouvoirs publics ne suivent pas alors que le mois sans tabac, il y en a partout.
C'est que quand même, l'industrie, le lobby de l'alcool et viticole en France, c'est très puissant. Hein. Au départ, lorsqu'on avait souhaité impliquer Santé publique France et les pouvoirs publics, la filière viticole a quand même reçu le président de la République et il a annoncé que bon, il ne faut pas emmerder les Français.
Il a dû être bien reçu déjà.
Voilà. Donc finalement, il n'y a pas eu de soutien de la part des pouvoirs publics. Alors, ils sont en train ils ont fait un contre-feu parce qu'aujourd'hui, le président de la République reçoit le prix de la revue des Vins de France, vous voyez, en plein défi de janvier, c'est pas mal.
Effectivement, on a aussi de plus en plus de boissons sans alcool, hein, des vins ou des bières sans alcool. C'est une bonne solution si on veut rester festif et justement ne pas rester à l'eau ou au soda, selon vous?
Alors, il faut éviter le soda parce que je pense que le gros piège, c'est de passer dans le sucré.
Ouais.
Donc, il faut aller vers quelque chose de très sympa. Faire des jus, faire des mélanges, un peu les mélanges détox. Il y a plein de recettes qu'on propose sur les sites. Il faut éviter de passer d'un truc à l'autre. Il faut vraiment changer de philosophie pour
oui,
ce
moment. Oui, mais la bière sans alcool, genre, c'est tout ça, non?
Il y a toujours de l'alcool dans la bière. Et si vous gardez la bière sans alcool, vous maintenez l'esprit dans lequel vous êtes en train de, finalement,
consommer
malgré tout.
Truc,
c'est un peu comme les sodas sans sucre. Ça stimule l'insuline, hein. C'est pareil.
Ouais,
c'est
vous disiez tout à l'heure que les personnes qui souffrent d'addiction à l'alcool, pour le coup, par contre, ça peut être dangereux de se lancer dans... C'est quoi les risques d'un sevrage brutal comme ça? Vaut mieux se faire aider? Le mois sans alcool, c'est peut-être pas l'opération pour
eux. Le mois
sans
alcool, pour les personnes dépendantes et malades d'alcool, c'est un mois dans lequel elles peuvent exprimer, avec l'aide finalement de tout le monde, l'envie de se faire aider. Elles peuvent exprimer leurs difficultés sans se sentir stigmatisées. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque Julia m'a posé la question, j'ai dit « mais ça concerne tout le monde ». Et certaines personnes nous disent « mais moi je ne suis pas concerné, je ne vois pas beaucoup ». Ça n'est pas un mois d'abstinence ou de prise en charge globale. Hein. Ce n'est pas une thérapie de groupe. Non, non. C'est un groupe ludique, c'est une dynamique sociale qui permet de finalement de s'éprouver, de s'arrêter, de sentir un peu où on en est.
Et quels sont les signes qui ne trompent pas et qui doivent me faire dire « j'ai un problème avec l'alcool » ?
C'est lorsque vous l'avez dans la tête, c'est-à-dire lorsque vous êtes obsédé par la consommation, lorsque vous anticipez la consommation, lorsque vous anticipez l'angoisse. Et ensuite, ça c'est ce qu'on appelle le craving. Voilà, et ensuite il y a tous les signes que, évidemment, je ne peux pas être professeur de médecine pour les voir, hein. C'est les signes physiques, les tremblements, les difficultés à assumer son rôle social, professionnel,
marital, vraiment au travail, à s'occuper de ses enfants correctement.
Ensuite, ça, c'est les dommages que ça s'installe.
Je vais vous offrir un extracteur de jus, Mélanie.
Ne vous inquiétez pas, moi, ça va très bien. J'ai commencé depuis le 2 et ça se passe à merveille. C'est très clair. Merci beaucoup, professeur, pour cet entretien et pour ces rappels importants sur les risques, malgré tout, de la consommation d'alcool. D'ailleurs, je le rappelle une nouvelle fois, les recommandations, les bons repères pour limiter les risques pour la santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours.
Oui, c'était important de le rappeler. Maintenant, nous allons basculer vers la séquence tendance de bienfaits pour vous.